Y voir clair, avec Nathalie Barrette et Bianca Lucier d'Alpé.
Bonjour, bonjour Bianca.
Bonjour Nathalie.
Comment tu vas?
Ça va très, très bien.
Ouais, écoute, tu sais Bianca, la musique, c'est un langage universel qui traverse toutes les frontières. Sauf que j'imagine que quand la vue manque, quand on n'a pas la vue, la musique devient une manière de voir avec le cœur et avec l'ouïe. Puis moi, j'ai l'impression depuis tout le temps que tout le monde qui a une déficience visuelle développe les autres sens. Et je trouve ça fascinant.
Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une déficience visuelle qui vont jouer de la musique, mais ouais, je dirais qu'il y a aussi beaucoup de mythes autour de ça. On a souvent en tête que les personnes qui ont une déficience visuelle jouent du piano à l'oreille depuis l'âge tendre de 2 ans et 3 mois.
Oui. J'avais cette impression-là que tout le monde avait cette facilité-là.
Oui, bien, je pense qu'il y a une grande tradition autrefois où on enseignait beaucoup, beaucoup la musique aux personnes qui ont une déficience visuelle, tu sais, ouais. Fait qu'il y a une partie de ça. Mais il y en a des personnes qui vont jouer de la musique, puis on va en parler aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de défis pour les personnes qui ont une déficience visuelle au moment de jouer de la musique.
Mm-hmm. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de la complexité de l'apprentissage de la musique, Bianca?
Exactement. On va prendre ça sur plusieurs angles. Okay. Et on n'est pas toute seule pour en discuter. On a avec nous Anne Jarry, qui est une amie à moi, qui a une déficience visuelle, qui est aussi musicienne à ses heures. Mm-hmm. Et puis, Anne, dans le fond, on pose toujours cette question à toutes nos invités. Toi, quelle est ta déficience visuelle?
On a combien de temps? J'ai parfois de la difficulté à le définir, mais j'appelle ça une déficience visuelle qui est très sévère, qui est due à un diabète de type 1 que j'ai depuis l'âge de 8 ans. J'ai eu des complications au niveau de la vision à cause de mon diabète entre 18, 19, 20, 21 ans, à l'âge où le contrôle n'était pas très bon.
Aha.
J'ai eu des interventions importantes entre 22 et 24 ans pour finalement me donner une cécité totale dans un œil et une très basse vision dans l'autre œil, qui est un œil qui vieillit et qui, maintenant, aujourd'hui, à 62 ans, ce petit peu de vision que j'avais encore à 24 ans, je suis en train de le perdre. Alors, j'appelle ça une très basse vision. Légalement, on appelle ça une cécité fonctionnelle. C'est-à-dire que je fonctionne principalement avec l'audio et le braille, la canne blanche pour mes déplacements, mais j'ai quand même un peu de vision en périphérie que j'utilise tout le temps quand je peux. C'est-à-dire pour mes déplacements, pour voir des contrastes. En arrivant ici au studio, c'est une journée où la neige est très contrastante avec des trottoirs qui fondent. Et donc, le trottoir, pour moi, est très foncé et je vois les bancs de neige blancs. Et dans ce temps-là, je me dis, ah, ça, c'est une journée où ma vision m'aide. Oui. Mais si la lumière n'est pas idéale, s'il fait sombre ou s'il fait trop soleil, je vois plus rien. Je perds ces contrastes.
Écoute, je me pose la question, est-ce qu'on peut évaluer en pourcentage, c'est quoi le pourcentage de la vue qu'il te reste?
On ne parle pas en pourcentage.
OK. Comment on explique ça?
C'est davantage avec des chartes optométriques qui permettent de dire lorsqu'une personne voit à 20 pieds ce qu'une autre personne qui a une très bonne vision voit à 200 pieds. Ça veut dire qu'elle a une condition qu'on appelle aveugle légalement. Moi, j'ai pas 20-200, j'ai environ 20-800.
OK.
Et ça dépend, après ça, de l'environnement dans lequel je suis. Parce que le 20-800, il est davantage dans un environnement clinique, dans une petite salle, avec des lettres qui sont placés à une certaine distance et qui t'invitent à dire si tu es capable de lire ou pas. Dans mon cas, si je suis dans un bureau d'ophtalmologistes ou d'optométristes, eux autres, ils vont me dire que je suis aveugle avec perception lumineuse parce que j'ai de la difficulté à compter les doigts. Lorsqu'ils s'approchent de moi, ils voient bien que je ne suis pas capable de lire la lettre à 2200.
OK.
Mais lorsqu'ils s'approchent et qu'ils me montrent leurs doigts, je leur dis, écoutez, je ne les vois pas, vos doigts. Ils ne sont pas assez contrastants. Par contre, le petit carré de lumière que vous voulez que je lise avec une lettre que je devine qui est un E parce que je connais les chartes M&Read qu'on appelle, j'ai dit, je me doute que c'est un E. Ou si vous l'avez changé, vous avez peut-être mis un K ou un M. Je vois qu'il y a du noir parce qu'il y a un grand contraste. Et le noir et la lumière me permet, en allant chercher le petit peu de vision qui me reste en périphérie, de percevoir plus loin que de voir de très près les doigts qui bougent et que je ne vois pas parce que c'est des doigts beige sur un fond beige, d'un chandail beige. Et là, tout s'efface.
C'est complexe, les défis.
C'est complexe.
C'est complexe.
C'est aussi complexe, que notre cerveau. Écoutez, la vision, ça vient direct du lobe occipital et des autres lobes qui on peut dire qu'ils se parlent.
On pourrait se prévoir une émission qui serait juste sur les niveaux de vision.
Oui, effectivement. Eh bien, Bianca, aujourd'hui, on parle, comme on l'a dit précédemment, on parle de musique, mais c'est un sujet qui te colle à la peau aussi.
Oui.
Parce que toi, Bianca, tu es, en plus d'être notre spécialiste en déficience visuelle, tu es aussi musicienne.
Oui, bien, musicienne, je rajouterais des guillemets, là. Mais j'ai étudié en musique avant de faire mon travail actuel, fait que je joue de la musique dans le cadre de mes loisirs.
OK, mais attends une minute, t'as quand même étudié au secondaire, au cégep?
Oui, oui.
Et à l'université en musique?
Oui, oui. Au cégep, je faisais un double deck musique-sciences humaines, puis à l'université, j'ai fait, avant d'étudier en déficience visuelle, j'ai fait mon bac en musique générale.
OK. Ouais. Et toi, t'as appris quel instrument?
Surtout le piano. Tu sais, j'ai joué différents instruments pour comprendre comment ça fonctionne, je dirais. Fait que j'ai joué un petit peu de violon, un petit peu de guitare, mais pas beaucoup. Tu sais, c'est vraiment le piano que j'ai plus développé.
OK, OK. Et je tiens à le mentionner parce que tu me l'as dit. Moi, j'ai testé à 3 reprises le resto noir. Et bien, quand tu as du piano là-bas.
Oui, j'ai joué du piano là-bas. Oui, j'ai fait ça quand j'étais dans mes études. Justement, quand j'étudiais en déficience visuelle avec Anne, parce que Anne et moi, on s'est connus avec l'université. Anne, c'était ma prof à l'époque. Puis le dimanche soir, je jouais du piano au restaurant au noir. Ouais.
Oh! Vous connaissez depuis longtemps.
On se connaît depuis 10 ans à peu près. Hein?
Absolument.
Ouais. Oui. Ouais. Mais plus que ça.
Même plus.
15 ans. Oh mon Dieu!
On s'était croisés un petit peu avant ça.
Oui, oui.
OK. Mais tu as aussi enseigné la musique, Bianca.
Oui. Oui, j'ai enseigné dans 2 écoles, puis chez mes parents. Là, je donnais des cours de piano aux jeunes et aux moins jeunes qui voulaient, dans mon quartier, tout ça. Fait que je le fais plus aujourd'hui, mais j'ai fait ça pendant quelques années.
OK. Ouais. Bon. Toi, Anne, tu joues de quel instrument? En fait, je pense que tu as commencé plus jeune avec... Tu n'as pas commencé avec le piano, toi.
Non, moi, j'ai commencé avec la guitare, mais... Je vais aussi faire une petite introduction. À 24 ans, quand j'ai perdu la vue, je ne connaissais pas le milieu des aveugles ou des malvoyants. Je partais d'un autre monde complètement. Et je me suis retrouvée à me demander qu'est-ce que j'allais faire de mes 10 doigts, c'est le cas de le dire. Et j'ai eu mon cousin à Vancouver qui m'avait introduit une guitare et m'avait montré les 3 accords de base. Il m'avait dit, tu sais, Anne, si t'es capable de jouer un La, un Ré puis un Mi, tu vas être capable de t'amuser avec une guitare. Et un mois ou 2 plus tard, je perds la vue complètement à l'automne. Et à l'hôpital, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai pensé à cette guitare que mon cher Kevin, que je salue, m'avait montrée. Et je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais apprendre la guitare, apprendre l'espagnol, parce que j'ai commencé à vivre avec ma sœur et mon beau-frère, qui est salvadorien, l'année où j'ai perdu la vue. Alors j'ai dit, tiens, je pourrais aussi apprendre l'espagnol. Et en même temps, j'apprenais le braille. Parce que je me préparais pour retourner aux études, puis étudier en psycho, entre autres. Puis ensuite, j'ai poursuivi. Mais alors, pendant la première année où j'ai perdu la vue, ça a été guitare, braille et espagnol pour arriver à jouer ma première chanson en espagnol, à la lire et à l'écrire en braille et à pouvoir la jouer avec les 3 accords que mon cousin m'avait montrés.
Okay. Mm-hmm. C'était quoi les plus grandes difficultés au niveau de l'apprentissage? Parce que, au départ, une partition... Parce qu'on va parler plus tard du braille musical, n'est-ce pas? Mais toi, comment t'as appris? Parce que, bon, t'as bien beau avoir tes trois accords, mais il y en a d'autres. Puis il faut que t'allises la musique.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie où on peut avoir une compréhension générale sans être très avancé dans un domaine. Mm-hmm. Et c'est ce qui m'est arrivé au niveau de la musique, au niveau de la guitare. Je me suis aperçue qu'effectivement, avec quelques accords magiques, on n'a pas besoin de connaître les partitions, on n'a pas besoin d'être musicien pour être capable de faire quelque chose de bien avec quelques accords à la guitare. Mm-hmm. Et donc, comme des gens qui voient, j'ai appris à l'oreille et en me pratiquant un peu, bien sûr, et en prenant des cours de piano entre mes études et mon travail de l'époque, j'ai appris à jouer et par le fait même, j'avais beaucoup de choses sur le cœur, beaucoup de choses dans ma transformation personnelle et professionnelle et un changement important quand on perd la vue. J'avais beaucoup de choses à dire. Et donc, j'ai commencé avec un petit dictaphone à l'époque à marcher sur la rue et à dire « Mon Dieu, j'ai une idée qui pourrait peut-être être fredonnée. » Puis là, je m'amusais à faire « ta-da-da-da-da-da-da. Ceci pourrait être une chanson. » Puis là, et dans ma tête, je fredonnais et je m'amusais. Puis je revenais à la maison et je me disais « Ah, tiens, je vais l'essayer à la guitare. » Et je commençais comme ça. Puis j'ai donc composé pendant quelques années des chansons que je fredonnais et que je plaquais ensuite à la guitare. Et sans aller beaucoup plus loin, simplement à m'amuser entre deux stress d'examen ou entre deux moments où j'avais besoin de me détendre ou de me lancer un nouveau défi de composer une chanson et de la compléter ou d'apprendre une chanson, des grands classiques de mon époque, du style Cat Stevens, Bob Dylan, puis du Paul Piché, exactement. Mais j'ai puis déjà... du Beau Dommage et tout ça.
Mais j'ai déjà entendu Paul Piché dire « Ah, je suis pas un bon guitariste, je sais 4-5 accords. » Fait que c'est vrai que quand tu sais quelques accords, tu es capable de jouer.
Oui.
Puis toi, la musique, justement, quand tu as commencé à jouer, je sens que tu as eu quand même un deuil à vivre, étant donné que c'est arrivé dans la vingtaine et tout ça. Est-ce que la musique a été pour toi... un baume pour ton cœur? Est-ce que ça t'a apporté beaucoup au quotidien, cette musique-là? Est-ce que ça t'a aidé à traverser cette épreuve?
C'est un oui définitif, mais ce que je dis aussi souvent, lorsqu'on passe à travers une épreuve, on ne devient pas quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait me lancer des défis, et après avoir perdu la vue, la même chose, j'ai voulu continuer à me lancer des défis, c'était plus les mêmes. J'étais une grande sportive. Moi, mon monde, c'était le tennis. Alors, j'étais une grande compétitive au niveau tennis. Après, ça a été autre chose de me lancer des défis, apprendre le braille, apprendre à chanter, à jouer de la guitare. Et ensuite, au niveau professionnel, je me suis beaucoup investie jusqu'à la retraite aujourd'hui, où la musique reprend la place qui lui revient. Mm-hmm. Donc, oui, ça a été... le plaisir de me lancer un défi de pouvoir composer, jouer, réussir ou pas certains morceaux plus difficiles qui, après quelques années, si j'ai pas rejoué ces morceaux-là, je les oublie. Mm. Mais je me suis beaucoup amusée avec ma guitare pour toutes ces raisons.
Mm-hmm. Et donc, c'était du par cœur? T'apprenais beaucoup par cœur. T'étais autodidacte et tu retenais par cœur. C'était du par cœur.
C'était beaucoup, à l'époque, on revient vraiment là, on revient loin en arrière là. J'avais 24 ans, 35 ans et plus. J'avais des cassettes.
Ouais, des cassettes.
J'avais des cassettes.
Bianca, connais-tu ça, des cassettes?
Oui, j'ai connu ça.
Cassettes. J'avais un... Pour les personnes qui connaissent l'époque où on utilisait des enregistreurs 4 pistes pour les aveugles, on avait des enregistreurs 4 pistes où on pouvait enregistrer 120 minutes sur une cassette de 60 minutes.
Ça lisait vite, ça parlait vite.
On pouvait le mettre en vitesse lente, en vitesse normale, en vitesse rapide.
C'était gros, là. Moi, j'en ai vu dans les archives quasiment de l'Institut. C'était quoi, 2 pieds de long par un peu près?
C'était gros.
C'était très gros, très lourd.
C'était presque du 1 pied par 1 pied.
1 pied, bon, OK, j'ai exagéré un peu.
Ouais.
C'était gros.
Tu pousses bien quand.
Mais c'était avec un prof.
Excusez, on a un petit fou rire, Anne. Ouais.
Avec un prof ou avec des amis, c'était possible d'enregistrer une chanson que je voulais apprendre ou d'aller chercher des partitions ou des tablatures, parce qu'en guitare, on parle de tablature,
ouais.
Avec les paroles et les lettres au-dessus des phrases qu'on devait apprendre. Je me souviens, j'écoute ça encore. Des fois, j'ai ma mère, des fois, j'ai mon frère, des fois, j'ai mon cousin qui m'avait lu les lettres et les phrases pour apprendre à jouer Blowing in the Wind. Puis,
avec les accords. Là,
puis, It's not time to make a change, just relax, settle down, de Cat Stevens. Des trucs comme ça où là, tu les écoutes, puis tu les recopies dans ta tête et sur ta guitare. Donc, c'était pas si différent qu'aujourd'hui d'aller faire un petit tour sur YouTube puis d'aller voir qu'est-ce qu'on peut jouer avec les tunes des Cowboys Fringants, par exemple.
Mais en version audio.
En version audio.
Ouais.
Parce que ce qu'on voit maintenant sur YouTube, il y a plein d'images pour pouvoir suivre les images. Ben, quelqu'un comme moi, je ne peux pas suivre l'image, mais je peux écouter et puis aller essai-erreur, comme je faisais avec ce qu'on appelait à l'époque mon beau vieux GE, mon enregistreur 4 pistes. Et j'ai fait ça assez longtemps.
Eh bien, Kat, toi, tu y allais comment pour parce que tu as appris le piano?
Oui.
Donc, c'était du par cœur à l'époque?
Beaucoup. Oui, ben, en fait, c'est sûr, il y avait moins de technologie avant. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle que moi, mon acuité visuelle, c'est un peu mieux que Anne. Je peux quand même considérablement mieux que Anne. Je peux voir, je dirais pas que je peux suivre une partition comme quelqu'un qui voit bien, mais je peux avoir un certain accès visuel quand j'ai des conditions. Tu sais, comme Anne disait, quand l'éclairage est approprié, quand la distance. C'est la bonne. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je pouvais regarder mes partitions de proche. Mais le problème, comme beaucoup de personnes qui ont une déficience visuelle, c'est que si on prend la partition dans nos mains pour la mettre près de nos yeux, on n'a plus nos mains pour jouer.
Non,
on n'en a pas trois, malheureusement. Ou heureusement. Donc, je me souviens que quand j'ai commencé au tout début, je prenais ma partition avec ma main gauche, par exemple, pour jouer la main droite.
Et... Ah, tu jouais seulement que d'une main?
Oui. Après, j'inversais. Je prenais ma partition avec la main droite pour jouer la gauche. Après, je regardais les deux ensemble. Puis après, j'essayais de mettre ça ensemble dans ma tête. Mais quand le temps a passé, à un moment donné, je suis allée voir l'optométriste à l'Institut Nazareth-Louis Braille quand j'étais adolescente. Puis il m'a dit, il y a un lutrin qui pourrait spécial avec un bras articulé, un truc de 5 pieds par 10 pieds.
Ouais.
non, c'est pas vrai. un truc qui permettait de mettre la partition beaucoup plus près. Là. J'ose pas me lancer sur la taille du bidule.
Je te
mais...
croirais pas de toute façon.
J'ai plus de crédibilité. Mais ça permettait d'avoir la partition plus près. Fait que là, je devais... imprimer ça sur du 11 par 17, couper ça en deux. Fait que bref, j'avais mes installations.
Ouais.
Ça me permettait d'avoir un accès visuel et ensuite, je les mémorisais parce que sinon, il fallait que je change de page vraiment souvent. Fait que c'était comme une étape intermédiaire avant d'arriver à mon par cœur parce que ce lutrin-là, je pouvais pas déplacer ça facilement. Voilà.
Et tantôt, on parlait, tu sais, des croyances, des mythes par rapport à la déficience visuelle et à la musique. À vous deux, Anne et Bianca, est-ce que c'est vrai que les non-voyants ont une sensibilité particulière pour ressentir les nuances et les subtilités musicales?
Vas-y, Anne, je continuerai, ouais.
Oui, on peut se compléter, Bianca. Moi, je dirais qu'on a tendance à vouloir généraliser sur les aveugles et les non-voyants. On est tous uniques. Par contre, on peut peut-être généraliser chez ceux qui ont perdu la vue à un très, très bas âge.
Ah, ouais.
Et ont eu la chance d'avoir des cours de musique dans les écoles spécialisées. Il y avait des cours intégrés, comme il y avait des cours de braille intégrés dans les programmes scolaires. Donc, il y a beaucoup de personnes aveugles, je dirais de naissance, qui ont appris la musique très tôt. Et parmi ceux qui étaient dans les cours de musique, il y en a qui étaient très, très bons, puis il y en a qui étaient moyens, puis il y en a qui étaient moins bons, comme dans tout. Alors, oui, il y a beaucoup de personnes aveugles de bas âge qui ont appris la musique très tôt, à l'époque où il y avait des écoles adaptées ou spécialisé.
Puis peut-être, Anne, ce que j'aimerais rajouter là-dessus, c'est qu'avant, au Québec, si, moi, j'ai parlé souvent à part de faire de la radio, au quotidien, je travaille à l'Institut Nazareth et Louis Braille, mais l'Institut Nazareth et Louis Braille, c'est la fusion de deux instituts qu'on avait au Québec, l'Institut Nazareth et l'Institut Louis Braille. L'Institut Nazareth, c'était pour les jeunes femmes et Louis Braille pour les jeunes hommes. Puis les jeunes femmes, là-bas, avaient une formation musicale.
C'était obligatoire?
Ça faisait partie
de... Oui, parce qu'avant, il y avait moins de possibilités qu'aujourd'hui pour l'emploi. Fait que ceux qui... Les personnes qui avaient une déficience visuelle, qui voulaient une carrière, c'était une opportunité, la musique. Je pense qu'aujourd'hui, avec le développement des technologies, il y a beaucoup de possibilités. On est peut-être moins dirigé vers une voie. Les gens doivent trouver leur voie. Tandis qu'autrefois, les gens étaient peut-être un peu plus dirigés vers une voie. Puis quand j'ai lu un livre, en fait, que tu m'avais... dont on a discuté déjà ensemble, Anne, qui parlait de Mme Suzanne Comand.
Tout à fait. Oui.
Qui a rédigé ça, une historienne sur l'histoire de l'Institut Nazareth-Louis Braille. C'est en 1861 qu'il y avait ce conservatoire-là qui a été créé à l'Institut Nazareth. Puis, je veux dire, c'est avant la Confédération, là. Puis les jeunes aveugles jouaient la musique. Fait qu'on peut comprendre que tout ce mythe-là, parce que ça fait longtemps qu'il y a une tradition de musique chez les personnes qui ont une déficience visuelle.
OK. Ouais. Puis en plus... Je travaille en TV aussi, puis en télévision, je travaillais sur une émission culturelle, et puis notre accordeur de piano avait une déficience visuelle.
C'est ce que j'allais dire, en fait, pour compléter Bianca et Nathalie, c'est que, oui, il y avait l'école Nazareth pour les femmes, pour les jeunes femmes, mais il y avait, pour les jeunes hommes, des cours pour devenir accordeur de piano.
Ah, c'est ça!
Alors, il y en avait beaucoup à l'époque. Oui.
Donc, Louis joue un rôle important dans ce cas-ci pour les gens qui accordent la musique, la sensibilité.
Moins aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai déjà vu, quand j'étais à l'université en musique, à un moment donné, j'ai vu passer l'accordeur dans les locaux. Il y a une petite lumière qui lui indiquait, quand il fait une note sur le piano, il y avait un petit bidule, puis c'était vert ou rouge, puis quand c'était vert, ben c'était juste. Je disais, bon!
Tu brises mon rêve!
Mais j'ai longtemps eu chez mes parents, quand j'étais plus jeune, l'accordeur de piano était non-voyant. Oui. Fait qu'il y en a encore, mais la tradition, malheureusement, se perd un peu, mais je pense que c'est un métier qui peut encore être exercé pour les personnes non-voyantes.
Mais c'est ça, tu sais, de plus en plus, je pense que les technologies aident les personnes en déficience visuelle. On parle de musique, mais dans bien d'autres sphères, la technologie, même l'intelligence artificielle va aider de plus en plus dans le futur. Absolument. Mais là, vraiment, avec ton accordeur qui a son petit...
je vais revenir...
Tu viens de me décevoir!
Je vais revenir, moi, Nathalie, sur ta question. Est-ce que les personnes donc aveugles ou malvoyantes ont une meilleure et tout? Ça dépend beaucoup de la cause de la déficience visuelle. Une personne comme moi, qui a eu une déficience visuelle tardive, mais qui est due à une maladie qui est le diabète de type 1 et qui est toujours là, c'est une maladie chronique qui évolue et qui attaque non seulement les petits vaisseaux des yeux, mais qui peut également affecter les vaisseaux des mains, des reins, des pieds.
Ah, ouais.
Mais aussi, là, j'ai 62 ans et je commence à avoir une légère déficience auditive. Donc, un petit diagnostic que j'ai eu avant les fêtes. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on a une déficience visuelle, tout d'un coup, les autres sens sont extrêmement alertes et vivants. Il faut seulement se dire que lorsqu'on a un sens qui est moins fort, les autres sens doivent être davantage en alerte. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement meilleurs, mais ils peuvent devenir meilleurs à force de les utiliser. Et de là, l'importance aussi de maximiser le potentiel des jeunes lorsque des parents veulent faire à leur place. Non. Laisser les jeunes aiguiser leur sens, aiguiser leur savoir-faire et leur savoir-être parce qu'ils vont en avoir besoin. Mais c'est pas... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un mythe. Il faut comprendre quelle est la cause de la déficience et comment on peut compenser avec les autres sens et les autres capacités de
la personne. Et chaque personne est unique.
Oui, puis ce qui est différent dans le cas de la musique, c'est l'aspect artistique. Ça se peut que quelqu'un qui a une déficience visuelle ait développé beaucoup son audition, par exemple, pour traverser les rues, écouter le trafic parallèle, écouter « Ah, je passe à côté d'un mur ou à côté d'un couloir parce que l'air, c'est différent. » Donc, d'être attentif dans un contexte de déplacement, par exemple, savoir si quelqu'un est en habit de neige ou en botte parce que ça frotte, tu sais, versus avoir de la musicalité, c'est pas tout à fait la même chose, là. Tu sais, on s'entend, fait qu'il faut quand même que la personne, elle ait le sens artistique aussi, tu sais.
Oui. Et toi, Anne, tu composes aussi. Alors, qu'est-ce qui t'allume? Parce que je veux qu'on entende, avant d'aller à la pause, une de tes compositions. C'est toi qui chantes. Quel est le titre de la chanson qu'on va entendre?
Le monde des regards.
Pardon?
Le monde des regards.
Donc, un lien avec ton histoire.
J'ai choisi cette chanson-là simplement parce que c'est une émission sur la déficience visuelle et la musique. Et comme je l'ai composée à l'époque où j'étais nouvellement atteinte d'une déficience visuelle, j'ai voulu faire le lien entre ma réalité et comment je réussissais finalement à retirer le meilleur d'une situation difficile en composant cette chanson. Mm-hmm. J'en ai composé d'autres par la suite, mais je ne vous les ai pas partagées. Pas cette fois-ci, en tout cas.
Alors, écoute, Anne, avec plaisir, on va écouter ta chanson. On va aller une pause publicitaire, puis on se retrouve après pour... je veux qu'on parle, entre autres, de musique braille musicale.
Oui.
Alors,
oui.
Écoutons ta musique, ta chanson.
Merci.
Et tout ce brouillard me donne le sentiment ce soir. Ce monde de regards, comment exprimer cette forme de complicité qu'un regard peut créer sans avoir à expliquer. Ce regard parfois en dit bien plus que l'on ne croit, et sans même y penser, d'un seul coup d'œil, les gens sont vite classés. La voix ne sait cacher ce que les yeux ne peuvent capter, et que la voix ne peut cacher.
Vous écoutez Y voir clair avec Nathalie Barrette et Bianca Lucier d'Alpé.
Alors, on va parler, parce qu'effectivement, l'apprentissage de la musique se fait maintenant avec le braille,
entre autres.
Le braille musical, entre autres.
Maintenant et avant. C'est pas nouveau. C'est nouveau pour moi, maintenant que je suis à la retraite.
Ça fait longtemps que ça existe, le braille musical.
C'est Louis Braille, en fait, qui a créé le braille musical.
Ça a été inventé au 19e siècle.
Ouais. Oui, oui. Oh, oh. Ça a été inventé en même temps que le braille lui-même. Donc, officiellement adopté partout mondialement avec les Américains qui, eux, faisaient la guerre des poings pendant de nombreuses années. Au début du 20e siècle, tout le monde entier a adopté le braille. Et dans ces formes de braille, il y avait le braille mathématique, le braille littéraire, mais aussi le braille musical. Et donc, si vous voulez, je peux partir sur mon expérience,
Oui, parce que là, tu as commencé à jouer du piano.
Oui. C'est que, donc... en fait, comme je disais tout à l'heure, le diabète, il m'amène toutes sortes de problématiques. Entre autres, j'ai dû me faire opérer un petit peu dans les doigts... au fil des ans, là, alors j'ai été opérée sur 5 doigts. Mm-hmm. Puis je me suis dit, bon, la guitare, ça commence à être un petit peu difficile pour les doigts. Pourquoi pas le piano? Et donc, j'ai commencé à m'amuser avec un peu de la même façon qu'avec la guitare, à comprendre avec des petites émissions sur YouTube que le piano, ça pouvait être accessible à tous. Mais comme j'aime les défis, comme j'expliquais un petit peu plus tôt dans l'émission, je me suis dit non, je ne vais pas le faire seulement comme j'ai fait avec la guitare. J'ai envie d'apprendre le solfège, j'ai envie de lire la musique en braille, de lire des partitions. Et donc, je me suis lancée ce nouveau défi depuis 2 ans maintenant. Ah. Et c'est un code qui n'est pas facile. Mm-hmm. Dans la mesure où quand tu connais déjà le braille pour le lire de façon littéraire, et tu peux lire les chiffres, tu peux lire les lettres, tu peux lire en anglais, en français, en espagnol, c'est les mêmes 6 points, parce qu'on parle du braille comme étant les 6 points magiques pour lire, c'est les mêmes 6 points qu'on utilise selon le contexte dans lequel on veut lire. Alors, si je veux lire de la musique, ce qui pourrait me paraître comme la lettre A, ou la lettre, plutôt dans ce cas-ci, il n'y a pas la lettre A. Ce qui pourrait être, par exemple, la lettre H, eh bien, ça sera un sol. Et la lettre G, ça sera un fa. Et la lettre, bon, etc., etc.
Et si tu permets, Anne, d'ajouter, ce qui est très difficile dans le braille musical, c'est que c'est pour les gens qui jouent de la musique pop, les gens vont savoir, par exemple, un C, c'est un do. Un D, c'est un ré. On a comme une notation américaine qu'on utilise, mais c'est décalé par rapport à celui du braille. En braille, le D, c'est le do.
Exactement.
C'est mélangeant.
C'est très mélangeant. Puis moi qui ai appris, comme je disais tout à l'heure, les tablatures avec les lettres, A, B, C, D, E, F, G, tu dois aussi comme oublier ça puis dire, OK, là, il faut que j'apprenne les lettres en braille, les blanches, les rondes, les croches, les doubles croches. Et tout ça, ça se lit avec les fameux 6 points magiques.
Hey, là, j'ai une colle pour vous, les filles. Je gratte un peu la guitare. Je ne joue pas, je gratte donc mes accords et tout ça. Puis mon chum me disait toujours, tu vas voir avec le temps, tu vas faire de la corne, ses doigts, ça va bien aller. Parce que quand tu joues de la guitare, ça va mieux quand tu as de la corne sur les doigts. Quelqu'un qui a de la corne, ses doigts, il fait comment pour lire le braille? C'est une colle, hein?
Mais
une bonne question.
C'est une très bonne question parce que quand j'ai commencé à jouer de la guitare, c'était la main gauche qui avait
de la corne.
Et quand j'ai... Ouais. En même temps, commencer à lire le braille, mon professeur de braille me disait, comme tu as le diabète, tu as peut-être moins de sensibilité au bout des doigts et tu as de la difficulté avec la main gauche, donc on va davantage insister avec ta main droite pour lire le braille. Parce qu'il faut comprendre que le braille, ça se lit des deux mains. Mm-hmm. Et lorsqu'on peut lire des deux mains, on lit beaucoup plus vite que lorsqu'on lit qu'à une seule main. J'ai donc, moi, appris à presque, je dirais pas exclusivement, mais principalement lire avec ma main droite en braille, parce que j'avais de la corne sur les doigts de la main gauche.
Bon. Il y a un lien.
Par contre, après quelques temps, cette corne, elle s'en va. Il n'y a plus cette même lourdeur qu'au tout début. Mm-hmm. Les musiciens qui débutent, ils ont beaucoup de cornes, mais après ça, ça s'en va. Et j'aurais pu continuer à persister pour lire des deux mains en braille, parce que, un petit peu comme expliquait Bianca tout à l'heure, quand moi, je lis ma partition avec le braille musical, je dois le lire avec la main droite pour jouer ma main gauche au piano et le lire avec la main droite pour jouer ma main... Enfin, je pense que je suis en train de me tromper.
Il faut inverser.
On
n'a pas 3 mains, là, non.
On n'a pas 3 mains, c'est ça. Alors, si je veux jouer de la main gauche, je dois lire de la main droite, et si je veux jouer de la main droite, je dois lire de la main gauche. Et moi, c'est très difficile pour moi de lire ma ligne, ma partition de la main gauche. Alors, tout ce qui implique une lecture de la main droite, je dois la lire de la main droite et ensuite la jouer de la main droite.
Ah, mon Dieu, que c'est compliqué.
Je peux pas jouer et lire ce qui doit être joué de la main droite.
Bon, le braille musical date, là, mais il y a plein de nouvelles technologies, entre autres. Et j'ai découvert un orchestre en Italie qui s'appelle le International Orchestra. C'est une formation musicale italienne unique fondée par le compositeur et chef d'orchestre
Alfredo Santolucci. Alors, c'est une initiative qui vise à intégrer des musiciens malvoyants et d'autres avec cécité, en fait, et cécité complète, avec des gens qui voient. Alors, l'orchestre est composé de musiciens âgés entre 12 et 65 ans, puis le fameux Alfredo Santolucci, il utilise une technologie innovante, notamment des systèmes d'écoute en temps réel qui permet aux musiciens de suivre les indications du chef d'orchestre via des instructions qui sont transmises par des écouteurs. On va écouter un court reportage qui a été présenté sur France 24. Puis on revient justement pour discuter de certains de ces outils-là. Parce que toi, tu m'as parlé du eSight aussi. Fait qu'on va parler de ça. On va écouter le court documentaire, le court reportage et on revient après.
À première vue, ça semble un orchestre comme tant d'autres. Et pourtant, il s'agit d'une formation musicale unique en son genre, composée en partie de musiciens valides, mais aussi d'instrumentistes aveugles ou malvoyants, comme Stéphanie à 44 ans.
Je dois utiliser mon ouïe à 360 degrés.
Je dois utiliser mon ouïe à 360 degrés, bien plus que si je pouvais voir. En plus, comme je ne peux pas lire les partitions, je dois apprendre tout par cœur. Et donc, pour moi, ça requiert une attention qui est double par rapport aux musiciens qui n'ont pas de handicap.
Francesco Santolucci est à l'origine du projet. Chef d'orchestre, il a décidé de faire appel à la technologie pour communiquer sur scène avec les musiciens en situation de handicap grâce à ce système de transmission vocale.
Je porte ce micro et chaque musicien qui ne me voit pas m'entend grâce à ses oreilles. Et comme ça, je communique tout, du rythme du métronome que je fais avec ma langue à l'expressivité de la phrase musicale. Tout ce que je communique aux autres visuellement et avec mes yeux, à eux, je leur dis par ma voix.
Le concert commence. Pour ces musiciens en situation de handicap, pouvoir jouer en orchestre professionnel est une chance rare, une opportunité de briser l'isolement.
Ce projet rend possible pour nous ce qui est impossible en temps normal. En Italie, on ne peut pas participer au concours public pour passer les auditions des orchestres. Car une des conditions requises pour postuler est de ne pas avoir de handicap visuel ou auditif.
Depuis sa création il y a un peu plus d'un an, l'orchestre multiplie les concerts du nord au sud de la péninsule avec un objectif, faire évoluer le regard porté sur le handicap.
Écoute, Bianca, quand tu as, super intéressant. Quand tu as fait ta maîtrise, toi, tu as testé avec 5 musiciens. C'était quoi le sujet de ta maîtrise? Oui. C'est là que tu as travaillé avec la eSight.
Oui.
Je me mélange ou pas?
Non, okay. Tu ne te mélanges pas, c'est ça. Dans le fond, vas-y. C'est que dans ma maîtrise, j'ai fait ma maîtrise en intervention en déficience visuelle, puis je voulais faire un lien avec la musique. Mm-hmm. Fait que j'ai fait un petit projet de recherche où j'avais 5 musiciens qui jouent du piano, mais pour le loisir, mm-hmm. puis de voir, eux, comment ils s'arrangent avec leur partition, qu'est-ce qui est difficile, puis c'est intéressant parce que les gens ont développé une tonne de systèmes de notation alternative ou de trucs, de compensation, de stratégie, mm-hmm. puis j'essaie de voir qu'est-ce qui était difficile malgré tous ces trucs-là, souvent ce qu'on appelle dans notre jargon des situations d'handicap, des petits bugs, des choses qui sont encore difficiles, qu'est-ce qui restait difficile, puis finalement, je leur proposais de faire l'essai d'une paire de lunettes électroniques qu'on appelle le eSight, comme Electronic Sight, mm-hmm. qui est une paire de lunettes, dans le fond, un peu spéciale, parce que c'est pas des lunettes comme telles, c'est un appareil électronique avec une caméra devant le nez. Puis devant les yeux, en fait, c'est pas des verres, c'est vraiment comme des écrans. Puis où on pointe notre nez, c'est projeter l'image de ce qui est capté par la caméra et projeter devant nos yeux. Donc, on peut grossir, inverser les couleurs, tout ça.
Attends, t'as l'écran. T'as l'écran
devant les yeux, deux écrans, comme deux lunettes.
Ouais.
Puis devant le nez, il y a une caméra qui va diffuser sur l'écran qui est devant les yeux, sur les deux écrans, qu'est-ce qu'il y a devant soi. Fait quand on bouge la tête, on voit avec les paramètres qu'on choisit, donc par exemple en 2 fois plus gros, 3 fois plus gros, 4 fois plus gros, on voit dans nos lunettes ce qu'il y a devant nous. Fait que ça permet de grossir, mais c'est un défi à utiliser parce que quand on bouge puis que tout est grossi 2 fois, ben c'est comme si ça va bouger 4 fois plus vite. Fait que ou ça va paraître 4 fois plus proche. Fait que c'est vraiment un défi, mais c'est intéressant. Est-ce que
quand tu déplaces la tête comme ça, ça bouge.
C'est un avantage et un inconvénient.
C'est comme avoir des énormes loupes électroniques qui te permettent de modifier le contraste et de grossir le caractère. Mais si tu bouges, quelqu'un comme moi qui l'a essayé pendant une seconde à peu près, ça peut te donner un peu...
La nausée.
La nausée, oui. Ouais. As-tu voulu travailler avec ça, Anne?
J'ai voulu l'essayer, ne serait-ce que par curiosité de savoir comment ça fonctionne.
Ouais.
Et voir si en grossissant très, très, très gros, si j'arriverais à voir un tout petit peu. Et la réponse pour moi, c'est non, je n'y arrivais pas. Mais en plus, ça crée une forme d'inconfort. Plus tu as besoin de grossir l'information, plus c'est inconfortable. À cause de la perte de champ. Quand on regarde une feuille de papier et qu'on la voit globalement, mm-hmm. on peut ensuite faire un ajustement pour une personne qui voit bien sur la ligne ou la mesure ou la portée qu'on veut lire. Donc, il y a comme un focus précis sur ce qu'on veut voir. Avec ces lunettes-là, puis je vais laisser Bianca compléter parce que c'est sa maîtrise, mais avec ces lunettes-là, on va grossir très, très gros la mesure. Mm-hmm. Mais si on va aller voir la seconde à côté et l'autre à côté, il faut bouger un petit peu. Puis en bougeant, très vite, on risque de perdre un petit peu
Oui. Il faut un contrôle oculomoteur. Ben pas des yeux, je veux dire, mais du cou, tu sais, vraiment les mouvements du cou très, très précis. Mais on peut, en déficience visuelle, Hugues, qui est venu nous parler un peu plus tôt, parlait d'une télévisionneuse qu'il utilise à l'université quand il enseigne au cégep ou avec ses étudiants à l'université. Ben c'est un peu le même principe, sauf que là, la télévisionneuse, au lieu d'être un écran, c'est en lunettes.
C'est ça.
Fait que c'est notre cou qui va contrôler. Fait que ça a l'avantage qu'on a une partition dans le contexte. Moi, mon but, c'était de prendre cette aide-là dans le contexte de la lecture musicale. Mais elle peut être utilisée pour plein de choses, là, tu sais. Mm-hmm. Mais de voir, est-ce que ça peut aider? Parce qu'en musique, souvent, le problème, on parlait tantôt de tenir avec une main la partition, puis tout ça. Là, ça fait qu'on a une partition standard, puis c'est juste en bougeant la tête. Là, faut pas que je bouge trop dans mon micro. Mais en bougeant avec la tête, on va pouvoir la parcourir. Mais ça demande un entraînement, puis ça convient pas pour toutes les conditions visuelles. Il y a des gens pour qui ça fonctionne bien. Moi, ça fonctionne bien. Je suis capable de lire une partition avec ça, mais ça va me fatiguer par contre. T'sais, je ne ferai pas ça pendant 3 heures.
Okay.
Fait que c'est du cas par cas.
Parce qu'une partition, pour que ce soit une partition de braille, vous devez la faire adapter.
Oui, il faut la faire transcrire.
Oui. C'est ça. Fait que là, si exemple, toi, Anne, tu disais, moi, j'aime ça jouer du Paul Piché. Fait que là, faut que tu fasses, toi, tu disais, Bianca, tu fais appel à l'Institut.
Mais moi, je ne les lis pas en braille. Moi, je l'ai appris,
qui fait
le braille,
la transcription de ça?
Du braille musical?
Oui.
Ça peut être fait à plusieurs endroits. Il y a le service d'adaptation de l'information à l'Institut Nazareth-Louis Braille.
OK.
Mais Anne, toi, tu les faisais au CNIB, je pense.
Oui, bien, moi, j'ai trouvé un endroit où c'est gratuit. Si tu es membre de l'INCA, tu peux écrire et aller vers un service qui s'appelle Beyond Print.
Ouais.
C'est fait à Toronto. On doit aller acheter 2 copies de la partition, soit chez Renaud-Bré ou chez Archambault, ou quelque part où on peut acheter la partition. On leur envoie et ils en gardent une copie et ils nous remettent une copie en braille.
OK.
Alors, comme par exemple, moi, j'ai une amie qui m'aide à apprendre le braille musical. Mm-hmm. Je salue Isabelle, si elle
Bonjour
nous écoute.
Bonjour, Isabelle.
Et j'ai fait faire, donc, 2 copies de la fameuse chanson de Beethoven, Lettre à Élise. Alors, comme ça, c'est plus facile parce qu'à l'audio, je la connais. Donc, c'est plus facile de lire et de un peu anticiper ce qui s'en vient. Et en même temps, quand on arrive à la partie plus crunchy pour les joueurs de piano plus intermédiaires, là, c'est plus dur, mais ça fait rien. Isabelle est là pour m'aider et m'expliquer quels sont ces symboles, qu'est-ce qu'ils veulent dire quand il y a une répétition, quand il y a une répétition seulement d'une mesure, quand il y a une répétition seulement entre la mesure 4 à 8, puis ensuite sauter à la prochaine. Tout ça, c'est tout expliqué en braille. L'autre chose par rapport aux partitions en braille que je tiens quand même à souligner, c'est que pendant de nombreuses années, on imprimait le braille, le braille musical, où on apprenait à jouer seulement la main droite, la clé de sol, et ensuite seulement la main gauche, la clé de fa. Donc, tu apprenais à jouer une main, ensuite l'autre main, puis une fois que tu savais jouer les deux, tu essayais de ton propre
C'était pas positionné un au-dessus de l'autre sur la
c'est
partition.
Ça.
C'était juste
c'est
une page, par exemple, ou toute la partie au complet.
La musique allemande, la musique anglaise, c'était deux mains séparément. Et la musique américaine a ramené ça un petit peu plus près de ce que les voyants utilisent, c'est-à-dire d'avoir et la main droite et la main gauche, une au-dessus de l'autre. Alors là, présentement, ce que Beyond Print nous offre à Isabelle et moi, c'est cette version-là où on peut lire main gauche, main droite ensemble. Isabelle, elle me dit, ah, elle dit, c'est intéressant. Elle dit, moi, je l'ai appris de l'autre façon.
Mais même à ça, Anne, c'est tellement plus... je m'excuse, je voulais pas t'interrompre, mais c'est tellement plus difficile parce que la musique en imprimé, c'est visuel. C'est un langage visuel. Quelque chose est aigu, c'est haut. Quand c'est grave, c'est bas. Puis quand c'est joué en même temps, physiquement, c'est un au-dessus de l'autre. En braille musical, là, il peut avoir... Là, je me souviens, une fois, quand j'ai fait mes cours de braille musical, j'avais compté que pour une note, il y avait 7 symboles.
Oui.
L'octave, l'intervalle, si c'est un staccato, le rythme... Bien, le rythme et la note, c'est dans le même, mais il y avait 7 symboles pour une note. Fait que ça fait que les mains, ils décalent. On peut pas dire ça, ça arrive en même temps. Fait qu'il faut beaucoup plus intellectualiser.
Oui.
Moi, je me rappelle que ça et mon cours de statistique à la maîtrise, je ne sais pas ce qui était plus compliqué.
c'était un défi...
vraiment un défi.
Moi, j'ai envie justement de parler de génie de la musique parce que vous le dites, c'est difficile. J'ai envie qu'on parle de quelques-uns de ces fameux génies-là. J'aimerais qu'on écoute un premier extrait. Alors, mon cher Mathieu, peux-tu nous partir ça, s'il te plaît?
À travers son piano forte.
Vous avez reconnu, mesdames?
Oui.
Et c'est ça, il s'agit d'Andrea Bocelli. Oui. Je trouve ça impressionnant de parler de ces personnes-là. Et j'ai quelques faits intéressants par rapport à Andrea Bocelli, qui est né en 1958. À sa naissance, lui est atteint de glaucome congénital, qui a entraîné ça amenait une pression excessive sur l'œil. Puis à l'âge de 12 ans, en jouant au football, le ballon a frappé son œil, ça a provoqué une hémorragie cérébrale et il a complètement perdu la vue. Les médecins avaient conseillé à sa maman d'interrompre sa grossesse en raison de complications potentielles. Elle a choisi de garder son enfant, qui est Andrea aujourd'hui, une décision qui a profondément influencé Andrea Bocelli dans son opposition à l'avortement. Andrea Bocelli, il a étudié en quoi, vous croyez, avant de faire de la musique? Il a étudié en droit. Alors, avant de consacrer sa carrière à la musique, il a obtenu son diplôme en droit à l'Université de Pise, puis a exercé brièvement comme avocat. Et puis, malgré sa cécité, il pratique l'équitation depuis de nombreuses années. Et puis, ce qui est très drôle à dire, il y a un théâtre qui s'appelle le Teatro del Silencio. En 2006, il a convaincu sa ville natale à l'Adjatico. Bon, là, vous allez m'excuser l'accent. Il leur a demandé de construire un amphithéâtre en plein air, le Teatro del Silencio, où il se produit juste une fois par année. Et le reste du temps, le théâtre reste silencieux. Créé Andrea. Mathieu, on va aller au deuxième extrait, s'il te plaît. Alors, les dimanches à Bamako avec...
Amadou et Mariam.
Amadou et Mariam. Donc, Amadou a perdu la vue à l'âge de 15 ans en raison d'une cataracte congénitale, tandis que Mariam est devenue aveugle à l'âge de 5 ans à cause d'une rougeole mal soignée. C'est bête. Ils se sont connus en 1975. Ils ont fait partie d'un groupe où ils jouaient de la musique ensemble. Ils se sont mariés. La fameuse chanson Dimanche à Bamako, qui a été produite par Manu Chao, a remporté un succès mondial et les consacrant, Amadou et Mariam, les consacrant comme l'un des duos les plus influents de la world music.
Bravo.
Alors, Mathieu?
Treat me so mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Les les filles. Alors, qui était-ce?
C'est Ray Charles.
Yeah! Ray Charles. Ray Charles a perdu la vue à l'âge de 4 ou 5 ans, jusqu'à une cécité complète à l'âge de 7 ans. On dit que c'est dû à un glaucome non traité. Malgré sa cécité, Ray Charles est un joueur d'échecs passionné. Et là, il a appris à jouer pendant un programme de réhabilitation en utilisant un plateau en braille. Connaissiez-vous ça?
Bien loin qu'un plateau.
Non, il y a des échecs.
Moi, je suis joueuse d'échecs. Je peux vous dire que c'est pas tout à fait un plateau en braille, mais c'est quand même un plateau en relief.
OK.
Où les pièces, ça serait un autre sujet.
Mais... Ah, ça serait un autre sujet intéressant, oui. Ça.
On en reparlera. et bien qu'il soit une personne aveugle, Ray a appris à piloter un avion en s'appuyant sur le son et les instructions de son copilote. C'est de la
C'est bien qu'il y ait un copilote quand même, le son. Ouais.
C'est de la détermination pareille. Il a un super pouvoir musical. Il y avait une mémoire musicale exceptionnelle, puis il pouvait jouer n'importe quelle chanson après l'avoir entendue seulement qu'une fois. C'est du talent, là.
C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Et Ray Charles, ça, on retient ça. Moi, je me souviens d'avoir vu le film qui s'appelait Ray, le film qui est sorti en 2004. Hey. C'est Ray Charles qui a refusé de se produire dans un théâtre en Géorgie, alors que dans la salle, ils avaient séparé les personnes blanches, ils avaient séparé les blancs des noirs. Puis Ray Charles avait refusé en Géorgie de chanter. Et il a été banni en Géorgie pendant des années jusqu'à... j'ai pas l'année exacte, mais jusqu'à ce que des années plus tard, en Géorgie, on l'a honoré finalement en adoptant sa chanson « Georgia's on my mind ».
Ah, c'est beau.
Ah, comme hymne officiel de l'État. Alors, Mathieu! C'est pas compliqué.
C'est la beau Stevie.
La beau Stevie Wonder. Hey, lui, Stevie a perdu la vue après sa naissance en raison d'une rétinopathie de prématuré causée par une surabondance d'oxygène dans sa couveuse où il était placé.
Ce qui était malheureusement assez fréquent.
C'est vrai?
Oh, oui. On a beaucoup de personnes qui ont une déficience visuelle ici encore au Québec. C'était ça la cause?
Ceux de mon âge et plus. Après, les progrès de médecine ont fait que les accouchements ont été de mieux en mieux, de moins en moins de morts-nés, comme on voyait au début du siècle, et de moins en moins de cécité dû à un surplus d'oxygène.
Quand j'ai lu ça, j'étais vraiment choquée. Stevie, c'est un enfant prodigue. Il a signé son premier contrat avec le label Motown à l'âge de 11 ans. Et son album s'appelait Little Stevie Wonder. Je trouve ça cute! évidemment, il a joué un rôle clé dans l'instauration du Martin Luther King Day comme journée fériée aux États-Unis, notamment grâce à sa chanson Happy Birthday. On va y aller avec un dernier extrait de M. Art Tatum, s'il vous plaît, Mathieu. Monsieur Art Tatum, on vient d'entendre la pièce Yesterday. Monsieur, le connaissez-vous, Monsieur Art Tatum?
Un petit peu, pas beaucoup.
Moi, okay. Je ne le connaissais pas.
Alors, il est considéré comme l'un des plus grands pianistes de jazz de tous les temps. Il a souffert de problèmes de vision dès son enfance, probablement, on dit, dû à des cataractes congénitales qui l'ont laissé avec une cécité complète et une vision très limitée de l'autre œil. Ce que je veux dire par rapport à ce monsieur-là, c'est qu'il y a deux surnoms. Les gens du milieu l'ont appelé ou l'ont surnommé, étant donné que c'est un véritable génie, l'ont surnommé God.
Rien de moins.
Et son deuxième surnom était l'homme aux mille doigts, en raison de son incroyable virtuosité au piano. Alors, il y en a plein de gens comme ça qui sont devenus des génies de la musique, malgré la cécité, malgré la déficience visuelle. Et vous allez continuer à jouer de la musique, vous, mesdames?
Bien sûr.
Pour le plaisir, oui. Et écouter ses virtuoses, bien sûr.
Oui, effectivement. Toi, Bianca, tu l'enseignes-tu encore ou
non,
pas?
Non, plus maintenant. Non.
C'est terminé pour toi.
Ben, j'en joue pour le plaisir, mais pas dans l'enseignement, comme je suis bien occupée avec mon travail actuel. Mais des fois, Anne et moi, on se rencontre puis on fait un petit peu de musique. On va, par exemple, lire des... Dans le fond, on s'est donné une mission de lire une partie en braille.
C'est le fun! Ouais.
Et de s'entraider, voilà.
C'est génial. Ben, écoutez, on va se retrouver, Bianca, pour un prochain épisode. Anne, merci mille fois. On sait, Anne, que tu as eu une grippe cette semaine, que tu as été malade.
Oui, c'est ma voix rauque.
Belle voix. Oui. Je tiens à te remercier d'être ici aujourd'hui, Anne. Merci mille fois d'être venue. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci, Bianca.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.